Weekend.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, lendemain de veille, parce qu'on se réveille comme si on avait un œil au beurre noir, comme si l'estomac était magané, comme si on avait fait un mauvais rêve. Le budget a été déposé, et quel budget? Quel budget? Une orgie de dépenses, des dépenses aussi farfelues les unes que les autres, un déficit qui se creuse à 40 milliards de dollars. Puis là, on est tous, finalement, c'est pas si pire, 40 milliards, parce que on s'attend tellement toujours au pire avec le gouvernement Trudeau, tellement on sait qu'il est accro à la dépense. Mais ce qui est frappant, c'est cette augmentation des impôts. En fait, on va imposer davantage le gain sur le capital. Vous êtes un travailleur, là, un électricien, un mécanicien, vous êtes une personne qui a eu une job toute sa vie, qui n'a pas eu accès à un fonds de pension payé par l'employeur. Vous avez ramassé vos sous, vous avez décidé d'investir dans un duplex, dans un triplex, parce que vous vous êtes dit, il va gagner en valeur, puis à ma retraite, je vais vendre ça, puis je vais pouvoir vivre de ce qui va me rester comme gain en capital de cet actif. Non, non. Le gouvernement a décidé que non, non, il allait chercher 66,6% de la valeur de ce gain en capital. C'est énorme, c'est énorme. Il y a beaucoup de monde qui mise sur ces actifs-là, ces placements-là, ces investissements-là pour vivre plus vieux. Et là, alors que l'investissement est au plus bas, alors que l'incertitude économique est au plus haut, alors que la productivité est dans le néant, le gouvernement vient ramener encore une fois un élément qui va créer encore plus un environnement défavorable à l'investissement privé. Le gouvernement ne fait fuir les potentiels investisseurs qui voudraient venir ici. Et lorsqu'on apprend que 54 milliards de dollars servent à chaque année, juste sur les intérêts de la dette, là, payer l'intérêt annuel de la dette, ça c'est l'équivalent de toute la TPS récoltée partout au pays pendant un an. Alors imaginez, tous les Canadiens qui paient la TPS à la caisse, de partout, cet argent-là va juste pour payer les intérêts de la dette. C'est là où va notre argent. C'est là où va notre argent. Et tout ça, là, ça reste lié au budget, mais il y a plus gros que ça, il y a une question de démocratie. Et la démocratie, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui se dit libéral, qui applique une plateforme néo-démocrate. Et cette plateforme néo-démocrate, on n'a pas voté pour. Si on voulait cette plateforme néo-démocrate, le NPD serait au pouvoir aujourd'hui. Le NPD aurait gagné ses élections. Le NPD n'a pas gagné des élections. En fait, le NPD a reculé dans la faveur du public. Mais c'est lui qui est au pouvoir actuellement. C'est le plus grand déni de démocratie de notre génération. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
J'avais vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Le budget a été déposé hier, un budget encore une fois largement déficitaire, 40 milliards de dollars de déficit. Après un long striptease, on nous a dévoilé le poteau rose des impôts.
Oui, oui, bien sûr. Mais moi, vraiment, ce que je trouve sidérant, tu l'as mentionné dans ton petit mot d'ouverture, c'est la dette. C'est absolument incroyable. Et je veux dire aux gens, parce que tu sais, ils vivent pas tous dans le monde politique comme nous, là. Qu'est-ce que c'est que la dette? La dette, c'est la somme de tes déficits qui s'ajoutent. Alors, t'as un déficit de 40 milliards, c'est 40 milliards de plus dans la dette, et c'est comme ça que ça va, n'est-ce pas? Alors, la dette, elle est passée de 721 milliards en 2019-2020. Pourquoi cette année de référence? Parce que c'est avant la pandémie.
Oui.
Parce qu'on considère généralement que ce qui s'est passé durant la pandémie
c'est
tellement exceptionnel et hors norme que ça sert à rien de s'y référer. Donc, on essaie de se référer à quelque chose qui est encore, comment dire, crédible, appelons ça ainsi. Alors, cette dette qui est passée de 721 milliards en 2019-2020, là, c'est 1255 milliards cette année. Et là où ça choque, les gens disent, ben oui, mais la dette, m'en fous de la dette. Ils sont toujours en train de me parler de la dette. C'est quoi cette histoire de dette?
Il faut la payer.
Mais cette histoire de dette, c'est que ça coûte 54 milliards de dollars annuellement, présentement. 54 milliards de dollars pour payer ce qu'on appelle le service de la dette, si tu veux, pour payer les intérêts. C'est absolument, et c'est une hausse de 30 milliards, c'est-à-dire 120 %. Alors, revenons au chiffre du service de la dette à 54 milliards. C'est presque deux fois le budget de la Défense nationale. C'est probablement, j'ai pas été le vérifier, probablement l'item le plus coûteux dans le budget fédéral. Les gens payent des taxes.
C'est plus que la santé, plus que les transferts en santé.
Alors, c'est catastrophique. Et de les voir aller allègrement dans ça, en tripotant un peu avec les chiffres. Donc, je fais attention, faut pas, quand je dis tripoter, je veux pas dire qu'ils ont commis des fraudes. Je dis simplement qu'ils ont été assez créatifs dans leur façon d'aligner les colonnes de chiffres. Puis là, ça te donne...
Ils ont noyé le poisson.
Ils ont complètement noyé le poisson. Et ils nous disent que, tu sais, c'est encore les sunny ways dont ils nous parlaient au début, tu sais, ces grands moments d'ensoleillement grâce à ce gouvernement.
Hey, on est dans la ténèbre financière.
Et là, et ils se disent, moi je pense que c'est ce qu'ils se disent, les gens s'en foutent de la dette, les gens s'en foutent des juridictions, les gens s'en foutent d'eux, mais à un moment donné, les gens arrêtent de s'en... Tu sais, on s'en fout pas de payer 54 milliards en intérêts.
Mais par c'est, année.
Par année. Mais c'est rien, ça va continuer de monter tout ça, là. Hein? Alors, il a donc annoncé que la dette atteindra 1372 milliards en 2028-29, un bond de 90 % par rapport à 2019-2020.
Et il y aura doublé la dette.
Alors, quand un premier ministre a été en poste pendant, et dans le cas de M. Trudeau, c'est 9 ans, 10 ans, c'est un peu ça la moyenne, ceux qui restent assez longtemps. Quand il a été, tu te dis, ben, il a laissé quoi derrière lui? Qu'est-ce qui est son leg, comme on aime dire? Franchement, on est obligé de dire légaliser le pot. Parce qu'à part de ça, c'est la dette, on dépense. La fonction publique est en explosion. C'est comme il y en a des fonctionnaires. Regarde n'importe où dans la rue, il y a à peu près au moins 35-40 % des gens qui travaillent.
Mais là, hier, ils nous ont dit qu'ils allaient...
En couper 5 000
par attrition.
Par attrition, ça, c'est la grande blague. Ça veut dire, moi, je ferais jamais des mises à pied.
Ben non.
Voyons donc, ça se fait pas. Tu sais, c'est incroyable.
Même quand elles sont annoncées, ils reculent. Regarde Radio-Canada, 42 millions supplémentaires hier à Radio-Canada.
Ah ben oui, ça va bien. Hein?
42 millions, ils sont rendus à 1,4 milliard de dollars de financement Radio-Can.
Puis pendant ce temps-là, les auditoires sont vers les canaux privés.
Oui.
Et eux autres...
Ils n'ont pas de son,
ça, pas d'image. Ils n'ont rien à voir dans ça. Alors, c'est un budget, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est un budget de rêveur. C'est un budget fantasmé. Là, tu sais, écoute, nous autres, on va donner de l'argent à tout le monde. Oui, mais tout le monde, en même temps, on va être obligé de payer, surtout ceux qu'on qualifie de riches. Et là, tu sais, la définition de ce qu'est un riche...
Ultra-riche.
Ouais, les ultra-riches. Et d'ailleurs, comme prévu, je l'ai vu ce matin, je sais pas où il était, mais le premier ministre Trudeau... Les conservateurs aiment mieux qu'on aide les ultra-riches plutôt qu'aider les gens de la classe moyenne. T'écoutes ça, puis à un moment donné, tu te dis, je pense que l'électorat commence à saisir un peu l'ampleur de l'imposture dont ils sont victimes. Qu'est-ce qui est arrivé qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de fonctionnaires de plus, est-ce que ça a aidé pour les passeports? Tu t'en souviens trop bien.
Épelay.
Est-ce que ça a aidé, mettons, pour la défense, alors que le monde est sous tension à l'heure actuelle et que tous les pays du monde vont jusqu'à doubler leur budget de défense? Rien, nous, on laisse ça, là.
Bien, on n'a pas de défense.
Mm-hmm.
On n'a pas de doctrine de relations gouvernementales, de relations internationales.
Non,
on
du
y
tout.
Va.
C'est n'importe comment.
C'est un petit peu n'importe comment. Transfert en santé, pas fort.
Ben, pas fort. Non, pas fort. Mais pour les autres niaiseries, on est bien fort.
Hey, on est bon?
Il y a un paquet de poudre aux yeux dans ça, tu sais, l'assurance médicaments. Je pense que tu as deux médicaments qui sont couverts par
l'insuline puis le diabète, là, notamment. L'insuline pour le diabète et la pilule contraceptive.
La pilule contraceptive.
Puis là, il faut donner des serviettes sanitaires à toutes les femmes gratuitement.
Oui. Alors, les gens qui écoutent là, présentement, vous dites qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'entrain aujourd'hui, ce Luc Lavoie. Il n'y en a pas. J'écoute ça. Puis
je t'ai
me
déjà
dis...
vu plus craqué que ça.
c'est parce que ça fait tellement longtemps que ça dure, cette folie de la dépense qui arrête jamais et qui ne crée pas d'infrastructure. T'sais, si on était en train de dépenser des milliards pour construire un train à grande vitesse, ma foi, il serait là pour au moins 50 ans. Ce serait un investissement. Là, on dépense sur n'importe quoi. Pilule contraceptive et puis l'insuline. Bon, combien ça coûte? Ah, c'est pas grave. On en reparlera une autre fois. Hein? Mais voyons donc. Puis, écoute, puis la subvention pour les soins dentaires. Il y en a une, tu sais, c'est l'NPD qui voulait ça, puis on leur a donné. Voyons donc, c'est bon pour tout le monde. Allez-y, faites comme vous voulez. Heureusement, les pays ne font pas faillite. Heureusement, ils ne font pas faillite. Même la Grèce a réussi à survivre à pire que ça.
Mais ça, il aurait pu le réussir, Justin Trudeau.
Pardon?
Il aurait pu réussir ça, nous mettre en faillite, si c'était possible.
Si c'était possible, la preuve que c'est pas faisable, c'est qu'on n'est pas en faillite. Alors, moi, je...
Quelle note tu y donnes?
On a posé la question hier à Robert Asselin.
Ouais, il a dit 5 sur 10.
Moi, je serais plutôt à 3,5 sur 10. En fait, pour dire le vrai, honnêtement, je suis à 0 sur 10.
Ben, c'est ça, me semblait, Luc.
Non, non, mais je me disais, ben, je vais prendre un chiffre bas. Non, c'est 0. C'est pas un budget, ça. C'est une espèce de...
C'est un dépliant.
Oui, c'est ça. C'est exactement, c'est un dépliant politique. Voici mon programme politique.
Non, en fait, il est rendu religieux. Parce que vouloir dépenser autant, là, c'est y croire fort comme une religion, là, tu sais. Tu sais, dimanche, dans un quartier près de chez vous, il y a Justin Trudeau qui va venir cogner à votre porte comme les témoins de Jéhovah.
Oui, avez-vous vu, voici mon dépliant. Je viens vous voir. Connaissez-vous Jésus? Non, eh bien, vous allez maintenant connaître moi-même.
Grâce au prophète Trudeau, voilà. Vos enfants vont partir à l'école le ventre plein, vous allez avoir un beau sourire.
Oui, oui, puis il y a même parfois, chaque jour, il va y avoir une rotation. Les ministres vont être envoyés dans diverses écoles pour faire manger ceux qui sont trop jeunes.
À la main, mais
voilà.
Avec une cuillère en argent.
Ouais. Alors, bouh pour le budget.
Sur cette belle finale. Luc Lavoie, merci beaucoup.
Au revoir.
Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, elle.
Dans les prochains jours, de courageux Québécois vont prendre la mer à bord de la flottille de la Liberté en direction de la bande de Gaza. Leur objectif, casser ce siège en apportant des denrées alimentaires, des produits médicaux de principale et de première nécessité pour les Gazaouis qui sont en train de mourir de faim, mourir de soif. Et mourir par manque de soins de première nécessité. Une des personnes qui va prendre part à cette flottille de la liberté, c'est Nima Machouf, membre du collectif Femmes, Vie, Liberté Montréal. Elle est aussi épidémiologiste. Bonjour, Madame Machouf.
Bonjour, Yasmine.
Pourquoi vous lancer dans une telle opération avec tous les risques que l'on connaît?
Ben parce que j'ai pas le choix. Parce qu'un génocide est en train de se faire, d'avoir lieu devant nos yeux. Et on a comme l'impression que nos gouvernements ne sont pas sérieux et ils disent des choses mais ils ne passent pas à l'acte. Alors c'est à la population civile, c'est à nous de se mobiliser pour empêcher ce génocide et ne pas faire comme la semaine passée on commémorait les 30 ans du génocide du Rwanda, mais maintenant il y en a un devant nos yeux qu'on peut empêcher. Alors nous on veut empêcher le génocide.
On peut s'entendre que ce n'est pas la flottille qui va pouvoir empêcher et mettre fin à cette grève-là. C'est peut-être symbolique, mais vous avez aussi une mission, vous voulez apporter des denrées alimentaires. On sait que l'approvisionnement est très difficile sur la bande de Gaza. Comment, de manière logistique, vous organisez ça?
Oui. En fait, vous avez raison. C'est pas avec ça qu'on va éviter le génocide. Mais parmi le génocide, c'est la faim et la famine qu'on veut empêcher, la famine avec laquelle le peuple palestinien fait face. Alors, comment nous, on veut agir? Il y a 5500 tonnes de matériel médical et de nourriture et des denrées de nécessité de base qui ont été amassées. Et à l'aide de 3 flottilles, une flottille va être chargée par le matériel et 2 autres flottilles vont être chargées par des humanitaires, des gens qui viennent de partout, qui essayent de faire un bouclier humain pour que ce matériel puisse arriver sain et sauf à bon port et qu'on puisse le livrer à Gaza. C'est ça. Donc nous, notre objectif, c'est de livrer du matériel médical et de la nourriture à Gaza pour contribuer à, 1, casser le siège et de 2, amener notre grain de sel contre la famine.
Ne craignez-vous pas pour votre intégrité physique?
C'est sûr que c'est dangereux. Et plus j'y pense, plus c'est dangereux, plus je vois qu'il y a des possibilités de danger. Mais c'est justement ce danger, il fait partie de l'horreur qu'on essaye de dénoncer avec notre action. Et on espère que le danger sera écarté par plusieurs moyens. Premièrement, ce qui fait qu'on pense qu'on va pouvoir être protégé, c'est premièrement, on va faire beaucoup de bruit, on va être dans les médias, on va essayer quasiment de faire cette mission humanitaire en temps réel devant les médias, de un. De deux, on est des centaines de personnes d'une trentaine de pays occidentaux différents. Donc, pour Israël qui vient, il y a à peine une semaine, de tuer encore des humanitaires de la World Kitchen International, et où un Québécois, Jacob, a été tué dans cette mission-là, il serait quand même très difficile, politiquement, pour l'image d'Israël aussi, serait très difficile de saboter ou de tuer des centaines d'humanitaires et se mettre à dos des trentaines de pays alliés, amis. Donc, on essaye de se protéger comme ça. Et aussi, on a une demande très, très particulière au gouvernement canadien pour nous protéger, pour assurer notre sécurité. Il y a quelques mois, le gouvernement canadien a fait partie d'une opération qui s'appelle l'opération Gardien de la prospérité. C'est quoi ça? C'est en décembre, il y a eu des attaques dans la mer Rouge au cargo de marchandises par les Houthis. Alors, il y a une coalition militaire internationale qui s'est formée pour protéger le transport de marchandises, pour sécuriser le transport de marchandises en mer Rouge. Alors, si le Canada est capable de faire ça pour protéger la marchandise, je suis certaine qu'il est capable de participer à cette même coalition, former la même coalition pour venir nous protéger, nous les humanitaires, et protéger le matériel médical qu'on veut acheminer dans cette mission humanitaire à Gaza.
À partir de là, quand est-ce que la flottille va commencer sa trajectoire? Quelles sont les prochaines étapes et quelles sont les prochaines dates à surveiller?
Le plus tôt possible, la flottille est prévue pour le plus tôt possible. Entre le 15 et le 30 avril, son départ est prévu pour le 15 et le 30 avril. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont déjà en place en Turquie. La première étape, donc, c'est de se rendre à Istanbul, où les gens vont se réunir. On va avoir des formations sur la non-violence. On va avoir des formations parce que les gens viennent de partout. On va avoir des formations pour comment pouvoir réussir une mission humanitaire de cette envergure. Et par la suite, les flottilles vont partir vers Gaza.
À quel moment vous partez en Turquie?
Ça va être quelques jours sur mer avant d'arriver au port de Gaza.
Et vous partez à quel moment en Turquie?
Moi, je pars ce soir.
Ce soir, d'accord. Est-ce que l'objectif est de sensibiliser, de faire du bruit, de continuer à faire parler du sort des Gazaouis qui sont en train de mourir de faim, de soif et par manque de produits les plus élémentaires en matière d'hygiène, en matière... vous l'imaginez, c'est l'horreur la plus totale qu'il y a là-bas. quelle est votre perspective sur cette guerre-là, Madame Machouf, au-delà de ce qu'on entend dans les médias, vous, comme humanitaire, vous allez prendre des risques pour essayer de nourrir et soigner quelques Gazaouis. Mais au-delà de ça, qui doit déposer les armes en premier, Israël ou le Hamas?
Les deux. Les deux doivent déposer les armes. Et il y a beaucoup de solutions internationales qui ont été proposées à Israël depuis bien longtemps, bien avant le 7 octobre. La guerre à Gaza n'a pas commencé le 7 octobre. Le 7 octobre, c'était horrible ce qui s'est passé. Mais Gaza, ça fait au moins 15 ans qu'il est sous embargo, sous restriction. L'occupation de la Palestine, ça fait 70 ans qu'elle a lieu. Il y a eu énormément de résolutions de la part des instances internationales, de l'ONU et tout ça, pour que chacun retourne à sa frontière, les frontières de 1947 qui ont été déterminées à ce moment-là, pour que la Palestine et l'Israël puissent vivre les deux côte à côte. La fin de cette histoire, il faut qu'on y arrive là. Ni le Hamas va être capable de faire disparaître Israël, ni Israël sera capable de faire disparaître la Palestine. Alors, il faut arriver à une solution à deux États, et c'est le rôle d'arbitres internationaux de s'impliquer là-dedans. Parce que après 70 ans d'horreur et d'humiliation d'un peuple, on peut pas s'attendre à ce que les relations soient cordiales et que les gens puissent s'asseoir tout seuls à une table de négociation.
Nima Machouf, membre du collectif Femmes, Vie, Liberté Montréal. Vous êtes aussi épidémiologiste. Avant de vous laisser, où est-ce qu'on peut suivre votre parcours et chacune des étapes de cette flottille?
Alors, on va essayer d'être très actifs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre la flottille Flottille pour Gaza Québec, QC, Flottille pour Gaza Québec sur Instagram, va faire le relais de toute l'information.
J'espère que vous allez avoir une... J'espère que vous allez avoir une bonne connexion à Internet parce que personnellement, je vais être intéressée de suivre le parcours, la trajectoire et ce que vous allez être capable de mener. Je pense que c'est important des personnes qui ont le courage de se mettre à risque alors qu'on vient de voir des humanitaires qui ont perdu la vie dans la même région. Ça prend un courage que personnellement, je n'ai pas. Mais si de la part de mon micro, je peux faire écho à ce que vous vivez, à ce que vous relayez, à ce que vous voyez, il me fera grand plaisir de vous accompagner dans cette aventure.
Merci beaucoup, Yasmine. Et justement, on a besoin de votre micro, on a besoin de votre soutien, de votre présence dans cette mission. La mission, c'est pas juste les gens qui vont être dans la flottille et le matériel qui va être dans la flottille. Bien sûr. Pour qu'elle arrive, on veut que les gouvernements nous protègent, mais plus on parle de cette mission humanitaire, plus ça va être un garant de la sécurité matérielle.
Et on va parler de vous, Nima Machouf. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
14h30, allons retrouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
Alors, si tu veux bien, on va se rendre en direct à Ottawa, la Chambre des communes, où il y a échange actuellement entre Pierre Poilievre et Justin Trudeau sur le budget qui a été présenté hier.
C'est la définition de la folie. Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, le chef de l'opposition dit qu'il défend les ultra-riches, 0,1% du pays. Les autres, il les laisse tomber parce que c'est ce qu'il fait. Il réduit les programmes, il réduit les investissements, il ne construit pas les maisons nécessaires, il n'a pas de plan pour lutter contre les changements climatiques et créer de bons emplois. Il s'est prononcé contre les mesures d'abordabilité. Il est donc contre les aînés et les soins dentaires. Il choisit de défendre les ultra-riches alors que nous investissons dans les Canadiens et que nous construisons un avenir plus juste. Le chef de l'opposition, Monsieur le Président, c'est lui l'ultra-riche. Il a caché la fortune de sa famille dans un fonds de fiducie à l'abri de l'impôt afin qu'il n'ait pas à payer les mêmes impôts que les autres. Il va en vacances avec les ultra-riches dans leurs îles privées, dans des endroits où ils peuvent cacher leur argent et éviter de payer leur juste part ici au Canada. Et maintenant, il paye les ultra-riches en dépensant 54 milliards de dollars de plus en service de la dette comparativement aux transferts en soins de santé. Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, c'est un budget qui investit dans l'équité pour toutes les générations. Nous demandons aux ultra-riches de payer un petit peu plus. Monsieur le Président, le Parti conservateur choisit de défendre le statu quo, défend les ultra-riches au lieu de dire « oui, nous devons investir dans les jeunes, nous devons construire plus de logements, nous devons soutenir les aînés avec des soins dentaires, nous devons créer plus de places en garderie, nous devons offrir de l'argent » dans une prestation pour les personnes handicapées. C'est ce que nous faisons et eux se prononcent contre.
Alors voilà en direct de la Chambre des communes lors de cette période de questions, M. Trudeau qui défend son budget. Yasmine, je retourne à toi. Revenons justement sur le budget qui a été présenté hier. Qu'est-ce qui t'a interpellée?
Ah bien, tout. Tout m'a interpellée.
Oui.
Le déficit à 40 milliards, le service de la dette à 54 milliards. Mm-hmm. La TPS que l'on récolte un peu partout au pays, qui a 51 milliards, on ramasse moins de TPS dans les caisses à travers l'ensemble du pays que ce qu'on paie en intérêt sur
oui.
la
Donc,
dette.
Simplement, la TPS nous sert à payer uniquement les intérêts sur la dette.
Et il faut en rajouter un petit peu. Il faut rajouter 3-4 milliards pour pouvoir payer l'ensemble des intérêts. Pas la dette, juste ses intérêts.
Les intérêts, voilà.
La déconnexion du gouvernement avec la réalité m'a frappée. Le fait qu'on nous dise que ce budget soit celui des prochaines générations, alors que la seule chose qu'on va leur léguer, c'est une dette galopante, un déficit incontrôlable, des finances publiques des plus sombres. Je ne sais pas ce qu'essaie de faire le gouvernement, mais chose certaine, les Canadiens n'ont pas voté pour la plateforme électorale néo-démocrate que l'on est en train de nous servir. Si les Canadiens voulaient ce genre de gestion politique, gestion des finances publiques, ils auraient pu élire les néo-démocrates au pouvoir, chose que les Canadiens, dans leur grande sagesse, n'ont pas fait. Or, ils ont été trahis par Justin Trudeau, qui, lui, est en train de leur servir une idéologie de gauche que les Canadiens ont rejetée. Et ça, je trouve ça d'un cynisme absolument incroyable compte tenu de la situation, compte tenu de l'incertitude, compte tenu où tout le monde en arrache. Il y a toujours le politique qui est supposé venir nous aider, mais là, maintenant, il y alimente le cynisme et il nous dit que finalement, le vote, on dit souvent, voter, ça compte. Mais au bout du compte, une fois que le vote est inscrit, il est enregistré, que les élections n'ont pas lieu prochainement, ben les gouvernements font ce qu'ils veulent de nous, avec nous et avec notre argent.
En raison de cette alliance, notamment avec le NPD. Yasmine, un mot en terminant sur le député ancien whip, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant en chef, Éric Lefebvre, qui a décidé de quitter le caucus de la CAQ, devient député indépendant parce qu'il veut justement se présenter aux prochaines élections pour le Parti conservateur du Canada. Et ça suscite un malaise au sein des partis d'opposition du fait qu'il continue de siéger comme député indépendant tout en ayant admis vouloir faire le saut au fédéral. Éprouves-tu le même malaise?
C'est pas quelque chose qu'on voit pour la première fois. Je rappelle que Catherine Fournier avait déjà fait savoir qu'elle voulait se présenter à la mairie de Longueuil, mm-hmm. puis continuer à siéger. Elle était députée jusqu'à la veille, finalement, ou le jour de son élection, où elle a démissionné. Il y a eu une partielle qui a fait élire Shirley Dorismond. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Maintenant, il ne fait plus partie du caucus gouvernemental, le caucus de la CAQ. Il ne siège plus autour de la table des conseils des ministres. Moi, je lui en veux pas de continuer à siéger comme député. C'est sûr que ça peut créer une situation assez cocasse. Mais moi, je me rappelle aussi d'un Gérard Deltel qui, toutes les rumeurs l'ont envoyé au fédéral et qui était toujours là jusqu'au moment où il a décidé de faire ce saut-là. Et il a démissionné alors que tout le monde savait que c'était une question de temps. Par contre, ce qui est inquiétant ici, c'est les rumeurs voulant que d'autres caquistes suivent les traces de M. Lefebvre. quitte. On a vu un Éric Girard, ministre des Finances, ne pas fermer explicitement la porte. Il y a des rumeurs autour de Samuel Poulain, mais évidemment d'autres. Il y avait Luc Provençal qui n'a pas voulu commenter. Est-ce que le caucus de la CAQ va se dégarnir au profit de potentiel caucus de Poilievre? Ça enverrait un drôle de message pour M. Legault.
Yasmine Abdel-Fadel, bon après-midi à toi. Merci, Yasmine.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Aujourd'hui, Jordan Chénard, notre spécialiste en communication marketing, s'est donné comme objectif de me prendre par les sentiments puis de me parler de McDo. Jordan, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai une réputation, moi, que...
Oh ouais, non, je ne suis pas au courant. Non, pas encore.
Ma réputation, c'est d'être la plus grande fan de McDo qui puisse exister. Là. Ça, c'est moi, du McDo, je suis capable d'en manger tous les jours, trois fois par jour pendant un mois de temps, puis je serais pas tanné. Là.
je ne connaissais pas ça, fait que je suis tombé pile poil sur ton intérêt.
J'ai vu McDo, puis là, genre, j'étais comme, hey, il faut que je commande. On dirait que je suis droguée.
Hey, écoute,
disons que le marketing
seule,
de McDo fonctionne sur moi super bien, extraordinairement bien.
Ben, Marc, du point de vue marketing, McDo a toujours été très, très, très fort. Et là, en fait, c'est ça. La campagne que je vais te parler aujourd'hui, c'est une campagne. Ben, en fait, as-tu la chance de l'avoir? Si t'as pas eu la chance de l'avoir,
non.
T'es curieux de savoir si ça fonctionnerait avec toi. En fait, c'est aux Pays-Bas. Et c'est un type de campagne qu'on appelle un stun. C'est-à-dire que c'est une campagne qui est faite dans une petite localisation. Là. C'est pas une campagne à grande échelle. Mais on se sert de cet aspect d'expérimentation-là pour après ça, faire des publicités, passer ça dans les différents vidéos.
On vient de perdre Jordan Chénard qui a été absorbé par les frites du McDo. Des fois, ça peut être énivrant. Je pense qu'on l'a retrouvé. Jordan, on te voit pas, mais on va t'entendre. Ah, même pas. Alors, on va réussir à le rejoindre. Ne vous inquiétez pas. Mais honnêtement, là, qui aime pas le McDo? Pour vrai, là. Genre, regardons-nous dans le blanc. Tu sais, laissez faire, là, le monde qui vous dit « Ah non, moi, je préfère une salade au brocoli, là, puis comme avec du tofu à un Big Mac. » Honnêtement, faites pas confiance à cette personne-là. Elle aime pas la vie. Une personne qui vous dit qu'elle préfère le tofu au McDo, là...
Oui, allô?
C'est pas quelqu'un que vous pouvez truster. C'est pas quelqu'un qui a du jugement. Du McDo, c'est bon. Ça fait du bien. Au moral. Au papilles. Après, toute cette... affection pour le McDo, on va passer à la campagne McDo. Jordan, quel est ce stunt que je faudrait pas que je vois pour pas que j'aille m'acheter des frites?
Ben, en fait, c'est un stunt qui se passe aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, une des choses les plus fortes du point de vue de McDo, c'est oui, il y a son logo, il y a son image, il y a des images de bouffe, mais c'est aussi l'odeur. Et je pense que tout le monde a expérimenté ça, là, passer pas loin du restaurant et sentir l'odeur des frites du McDo, mais qu'on voit même pas le restaurant, mais on le sait qu'il y en a un pas loin. Ben, ils ont décidé de jouer là-dessus. Ils ont fait un gros panneau et ils ont construit une espèce de petite technologie qui vraiment utilise l'odeur de vraies frites. Là. Il y a des restaurants pas loin, sont à 200 mètres maximum, vont porter des frites fraîchement faites dans le compartiment et après ça, le système diffuse les odeurs quand on est à environ 5 mètres du panneau en question. Mais le panneau n'a pas de logo, n'a pas d'image. En théorie, on ne sait même pas c'est à quoi qui sert ce panneau-là. Et là, ben, l'idée, c'était du stunt, c'est d'interroger les gens, d'interviewer les gens qui vont voir ça, et ça vous fait penser à quoi? Et ben, le sondage est assez clair. Les gens se rendent, ben, ça sent clairement les frites du McDo. Donc, cette espèce de lien entre l'odorat et la marque McDo est incontestable, et les Pays-Bas ont voulu le démontrer. Ce qui est assez intéressant. Et, en fait, ça fait partie d'un type de campagne, je dirais, qu'on va appeler sensorielle et qui est liée au neuromarketing. Et c'est là aussi que je voulais en glisser un petit mot. Le neuromarketing va arriver avec beaucoup de fausses promesses, mais peut arriver aussi avec des trucs qui sont extrêmement vrais, c'est-à-dire le olfactif. Donc, le lien du cerveau avec les odeurs est vraiment lié au souvenir. Ça a été démontré. Par contre, la science n'arrive pas à l'expliquer. Parce que la science ne peut pas l'expliquer qu'on ne peut pas comprendre que ça fonctionne. Par contre, à l'inverse, il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées dans le passé. Je me souviens peut-être dans les années 70-80, il parlait beaucoup d'images qu'on va dire subliminales. On disait que si on cachait des images subtiles et sensuelles sans que les gens le sachent, que ça allait interpeller le cerveau de façon pas subtile, mais sans qu'on en soit conscient. Bon, effectivement, déjà là, c'est un peu louche, Mais de l'autre côté, ça a été démontré que ça ne fonctionne pas. Par contre, l'olfactif, c'est vraiment très, très fort. Et c'est là où la campagne de McDo, ben, c'est vraiment, je trouve ça original. J'aime ça quand le marketing, la pub, tangente-là, de dire, on fait partie de vos vies et c'est imprégné profondément. Et McDo, sa marque, on va le dire, ils ont vraiment réussi à construire quelque chose de très, très intéressant. Là, c'est sûr que les apôtres de la santé, je sais, c'est pas bon pour la santé, on va se le dire.
Oui, mais là, regarde, la santé mentale aussi, c'est important.
Ben voilà, exactement. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que McDo, c'est ce qu'il a réussi à construire avec le temps. C'est-à-dire que McDo, on l'associe à des moments heureux. C'est ce qui fait que l'olfactif frappe très fort. On voit McDo après une bonne partie, je sais pas, une partie de moi quand j'étais jeune, on allait après la partie de baseball. Si on avait eu un bon match et tout ça, c'était des cornets, d'autres c'était aller au McDo pour souper selon l'heure. C'est là où on avait nos fêtes d'anniversaire quand on était jeune, ou l'anniversaire de nos enfants qui vont jouer dans les jeux et tout ça. Donc, plein de bons souvenirs. C'est pas autant lié à la bouffe. Mais après ça, tous ces bons souvenirs-là sont connectés à quoi? Aux odeurs.
Mais oui.
Aux odeurs de frites qui flottent partout. Donc, ils ont vraiment su démontrer qu'il n'y a pas juste le logo ou l'image de bouffe pour nous donner l'odeur. L'eau à la bouche. C'est ça. L'odeur va faire tout le travail. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, puis je suis pas mal certain que ça t'a fait cet effet-là, moi, juste voir cette campagne-là, même si je suis pas là,
Sais c'est quoi l'odeur qu'il y a, là. Je le sais. Je suis capable de la reconnaître entre mille. Je suis capable de savoir c'est quoi l'odeur que le monde sente. Là, tu m'as donné faim, Jordan, là. Fait que va falloir que je te laisse, là, parce que là, il y a comme des petites frites, là, avec ketchup et mayonnaise mélangées avec une frite, là. Tu sais, tu mélanges pas ça avec une ustensile, mais la frite te permet de mélanger les deux. Qui m'attendent dans quelques minutes. Merci beaucoup, Jordan. Merci pour le kilo que je vais prendre à cause de toi.
Ben, ça me fait plaisir. Je vais prendre le même en parallèle, donc on se requitte.
À bientôt.
Salut, à bientôt.
Politique. Environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, elle.
On revient sur le budget présenté par Chrystia Freeland hier. Orgie, dépenses, déficit, dette, vision économique absente, productivité aux abonnés absents. On parle avec Robert Asselin, premier vice-président du Conseil canadien des affaires. Monsieur Asselin, je vous ai entendu hier à la joute et au bilan. J'étais au bilan. Vous avez donné 5 sur 10. J'ai trouvé ça personnellement très généreux. Est-ce que la nuit a porté conseil, puis est-ce que la note est toujours la même aujourd'hui?
Je sais pas pour vous, Yasmine. Moi, à l'école, quand j'avais 5 sur 10, je trouvais pas que c'était une super bonne note.
Et non.
Donc, oui, ben, écoutez, c'est pas extraordinaire. Là. J'essayais quand même d'être généreux dans ma note.
Oui, vous aviez comme un petit réflexe Trudeau, là, très généreux.
C'est ça. De redistribution, exactement. Mais non, écoutez, ça n'a pas été un grand budget, là. Je pense qu'ils ont manqué leur coup. Aujourd'hui, d'ailleurs, les réactions sont très vives dans la communauté des affaires, là. Surtout les gens, les entrepreneurs, les gens qui prennent des risques dans l'économie, ils sortent fort aujourd'hui. Les gens sont fâchés parce que c'est pas facile faire des affaires. C'est pas facile lancer sa chemise puis dire, tu sais, je vais prendre mon capital, je vais tenter quelque chose de difficile. Puis là, à la fin de ça, de voir qu'on enlève une partie supplémentaire, dans le fond, une taxe au succès un peu, ça va décourager beaucoup l'investissement privé, à mon avis.
Ben, parlons-en, on va décourager l'investissement privé, puis c'est pas comme si on avait un écosystème qui était attractif pour l'investissement privé. On n'a pas beaucoup de choses à vendre aux investisseurs pour qu'ils viennent chez nous ici créer de la richesse puis nous contribuer à la création de richesse. Quel impact ça a sur l'attractivité du Canada et sur sa capacité aussi à retenir des investissements?
C'est ça la question. C'est pas juste la mesure hier, mais c'est la mesure qui ajoute à un climat déjà incertain où il y a un cadre réglementaire très très lourd, il faut le dire, parce qu'on vit dans une fédération, parce qu'on a mis toutes sortes d'étalement, on a étagé là, des réglementations qui fait que l'investissement dans les grands projets, c'est rendu très difficile. Ensuite, on a des taux de taxation quand même assez élevés. Bon, c'est un choix de société, on veut des programmes sociaux, j'ai aucun problème avec ça, mais ça se paie. Il faut créer de la richesse, comme vous dites, il faut créer des emplois. Et donc, à un moment donné, c'est comme si la pendule est devenue toute penché sur la redistribution, redonner, Puis évidemment, je pense qu'au Canada, on est chanceux de vivre dans un État qui redistribue, mais il faut créer de la richesse. Il faut
qu'il y ait des emplois. On ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas, là. Parce que on distribue de l'argent qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la dépendance de plus en plus importante de nos revenus du contribuable, tu sais, de l'argent, de que ce soit maintenant le gain sur le capital, l'impôt des particuliers, la création de richesses, la capacité du gouvernement à créer des sources de revenus qui sont indépendantes du Canadien ou de la PME canadienne semble être de plus en plus petite?
Oui, c'est ça. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça crée un peu une dépendance à un modèle de création de la richesse qui dépend trop du gouvernement. Oui. Donc, si le gouvernement ne redistribue pas, si le gouvernement n'investit pas, on a l'impression qu'on n'est pas capable d'y arriver. Évidemment, on vit dans une société capitaliste, c'est le choix qu'on a fait. Et donc, il faut laisser un peu les entreprises déployer les capitaux dans l'économie, les laisser innover pour que on récolte la richesse puis qu'on en bénéficie tous. Donc, cette idée que la croissance doit venir seulement de l'intervention étatique, moi, je suis quand même quelqu'un qui me considère du centre, centre-gauche. Je crois dans les programmes sociaux, tout ça, mais il faut évidemment que le secteur privé joue son rôle dans la société. Puis j'ai l'impression que ce gouvernement-là, maintenant, il croit que pour chaque problème, chaque enjeu de politique publique, la solution, c'est la dépense publique.
Je veux vous parler de quelque chose, d'un phénomène qu'on voit de plus en plus dans les budgets, les énoncés économiques au fédéral, c'est l'absence dans des secteurs stratégiques qui autrefois étaient très importants pour l'économie canadienne, pour l'innovation canadienne. Là, je pense naturellement à l'aéronautique, par exemple. On le sait, c'est un secteur qui a été largement frappé durant la pandémie. Un secteur qui faisait notre fierté, particulièrement ici au Québec, mais pas juste au Québec, même en Colombie-Britannique. On dirait que l'aéronautique n'existe pas. L'aérospatial n'existe plus dans le psyché fédéral. A-t-on abandonné des fleurons? A-t-on abandonné des secteurs porteurs pour l'avenir au Canada?
Oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que pour un gouvernement qui dit pro-politique industrielle, qui donne des milliards des compagnies étrangères pour venir s'installer ici, on ne sent pas la vision stratégique dans les secteurs qu'on a développés ici, les secteurs domestiques, là. Où on a créé de l'innovation, justement, avec des fleurons québécois, canadiens, comme CAE, Bombardier, Pratt Whitney, évidemment, a été acquis par une compagnie étrangère, mais quand même, c'est bien ancré dans notre écosystème ici. Et plein de PME qui se sont greffées à ça. Puis on dirait qu'il n'y a pas de vision stratégique au niveau de l'approvisionnement. On voit que on est obligé de... Monsieur Martel, là, le PDG de Bombardier, est obligé d'aller... aux États-Unis pour que le Pentagone achète certains de ses avions. Au Canada, il peut même pas en vendre ou très peu. Et donc, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique pour les secteurs stratégiques. Et ça, c'est au cœur de ce que les pays qui réussissent en innovation font bien. Aux États-Unis, ils ont choisi évidemment la défense, l'aérospatiale, l'aéronautique. Là, de plus en plus, c'est l'énergie. Au Canada, on pourrait faire ça aussi. On le fait pas, c'est un peu un nivellement vers le bas, puis on donne des crédits d'impôt un peu généraux, puis on espère que, bon, les gens vont investir, mais c'est plus là où les pays sont. Les pays ont des visions stratégiques des secteurs où ils veulent être bons. Il y a un exemple très frappant que je donne tout le temps, c'est les Pays-Bas, qui est pas un gros pays, puis en termes de géographie, qui est à peu près la moitié de la taille du Nouveau-Brunswick, donc dans le contexte canadien, vraiment pas une grande étendue, mais qui est le deuxième exportateur au monde en produits agricoles. Et la raison pourquoi ils sont deuxième exportateur, c'est qu'ils ont tellement investi en recherche et développement, ils sont tellement performants au niveau des technologies d'agriculture qu'ils ont dépassé tout le monde. Alors pourquoi nous, au Canada, on n'a pas de vision stratégique pour des secteurs qui pourraient nous rendre beaucoup plus riches?
Et l'agroalimentaire en est un, parce qu'on a une expertise, on a aussi une variété de ressources, évidemment. En agriculture, on a tant dans les bovins que dans le blé et les céréales, on a cette capacité-là, mais on dirait qu'on est scotché à des années, il y a des décennies, puis les pays sont en train de nous dépasser les uns après les autres. C'est un peu frustrant de voir ça, qu'on n'est pas capable de donner cette énergie-là. Parlons l'incertitude que va ramener une potentielle élection de Donald Trump, parce que là, on voit qu'il y a aussi des projections optimistes, réalistes. Je ne sais pas si elles sont optimistes, je ne sais pas si elles sont réalistes. J'ai de la misère à croire la lecture budgétaire du gouvernement et de ses fonctionnaires compte tenu de ce qu'il y a dedans. Prend-on en ligne de compte les incertitudes politiques chez nos voisins du Sud? Est-ce que ça peut mener, ça peut avoir comme effet sur toutes nos finances publiques?
C'est tellement une bonne question parce qu'on est déjà dans un monde très incertain. Du jour au lendemain, là, le cours du pétrole peut changer. Le pétrole peut s'envoler à cause du conflit au Moyen-Orient. Évidemment, il y a le conflit en Ukraine qui est semi-permanent maintenant. Et là, on a cette menace protectionniste qui revient, qui est Donald Trump, qui dit ouvertement, moi, je vais mettre des tarifs de 10% sur tout. Je vais vous forcer à renégocier toutes les ententes que j'ai avec vous. Puis nous, en bon scout, les Canadiens, on a les mains dans les poches, on attend, on se dit, ça va être correct. Mais non, c'est pas correct. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé dans ce budget, c'est des projections économiques très optimistes pour les prochaines années, compte tenu de l'instabilité. Puis le gouvernement compte évidemment garnir ses coffres avec cette croissance-là. Mais moi, considérant, on le souhaite, là, on veut pas du malheur pour le Canada.
Mais non.
Mais compte tenu de comme vous dites, M. Trump, qui a une forte probabilité de revenir comme président des États-Unis, je vois ça venir. Nous, ça nous inquiète beaucoup. Les membres, nos PDG sont très inquiets. Beaucoup de questions. Puis évidemment, dans cette entente-là, on n'a pas nécessairement le gros bout du bâton. Hein. On subit. Et donc, encore une fois, je ne sens pas que le gouvernement canadien a une stratégie très arrêtée, très musclée, très proactive pour faire face à cette menace-là qui s'en vient directement vers nous.
Et il n'y a rien dans le budget qui nous laisse croire qu'elle est calculée et qu'elle est prise en ligne de compte dans la gestion des risques en matière de finances publiques, parce que ça va toucher tant la colonne des revenus que la colonne des dépenses, cette question-là. Ça pourrait être catastrophique. Et peut-être que le déficit qu'ils disent avoir contrôlé à 40 milliards, c'est drôle, on n'est pas surpris à 40 milliards, pourrait être bien plus au courant des prochaines années. Ça m'inquiète personnellement. J'ai hâte de voir les agences de cotation, qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce qu'elles vont penser de ce budget. Robert Asselin, premier vice-président du Conseil canadien des affaires, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. C'est sur cette note un peu pessimiste que je vous laisse aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, aux invités, aux collaborateurs. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube.